Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans la liturgie de ce jour, on retrouve à plusieurs reprises le centre, l'essence du rosaire, c'est-à-dire que la méditation des mystères nous procure les grâces du salut. Ces mystères du rosaire, ces mystères de la rédemption, contiennent une vertu active qui passe en celui qui les contemple, on pourrait dire qu'il les rumine. Essayons d'expliquer comment le rosaire agit dans nos âmes, comment il agit dans le monde. Et pour cela, revenons au plan éternel du salut, comment Dieu a prévu de sauver les hommes après la chute d'Adam. Le salut, c'est tout simple, passe nécessairement par une personne, un homme Dieu, notre Seigneur, un homme nommé salut, puisque Jésus signifie Dieu sauve. C'est cette personne qui a pris cette chair humaine qui est la source unique du salut. Il est le nouvel arbre de vie dans le paradis terrestre. Les premiers hommes se nourrissaient du fruit de l'arbre de vie et ainsi vivaient éternellement. Et c'était ainsi que Dieu avait prévu que les hommes, normalement, ne connaissent pas la mort en mangeant du fruit de l'arbre de vie. Notre Seigneur est maintenant le nouvel arbre de vie. Si l'on ne mange pas notre Seigneur, on ne peut pas vivre. Il est aussi le serpent d'airain que Dieu avait dit à Moïse de dresser pour guérir les Hébreux des morsures des serpents. Il suffisait qu'ils regardassent ce serpent d'airain pour être sauvés des morsures mortelles des serpents. Il nous suffit à nous de regarder notre Seigneur pour être sauvés. Il est cette fontaine du psaume où le cerf altéré s'abreuve. Sa sainte humanité est donc l'instrument du salut. Et c'est ce que dit saint Jean Damascène, cette parole de saint Jean Damascène qui donne comme le leitmotiv de la troisième partie de la somme théologique. Caro Christi instrumentum divinitatis existit. La chair de notre Seigneur Jésus-Christ est l'instrument de la divinité. Voilà le plan de Dieu pour sauver les hommes. Ça passe nécessairement par cette chair sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est un instrument de l'action divine de Dieu dans les âmes. Et saint Thomas ajoute, un instrument touchant à l'unité de l'hypostase. La chair de notre Seigneur Jésus-Christ étant la chair du Verbe, puisque le Verbe s'est incarné, cette chair touche à la personne divine et ainsi cette chair peut devenir un instrument de salut. Tous ces mystères opèrent, tous ces mystères que notre Seigneur a vécu, a réalisé dans sa vie, ils opèrent le salut selon leur modalité propre. Saint Thomas le dit dans la question 48, article 6. Quia humanitas Christi est divinitatis instrumentum, ex consequenti, omnes actiones et passiones Christi instrumentaliter operantur in virtute divinitatis ad salutem humanam. Puisque cette humanité du Christ est l'instrument de la divinité, par conséquent, toutes les actions et passions de notre Seigneur Jésus-Christ opèrent de façon instrumentale, comme un instrument, en vertu de la divinité, pour le salut des hommes. La grâce étant surnaturelle, c'est Dieu qui la produit. Mais il veut se servir de cet instrument qui est l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, pour pouvoir recevoir l'opération, le fruit de l'opération d'une chose ou d'une personne, par exemple, pour pouvoir entendre, il faut être dans la zone où la voix porte. Pour pouvoir recevoir la lumière, il ne faut pas qu'un obstacle se dresse entre la source de lumière et l'objet. Donc, pour pouvoir recevoir cette action instrumentale de l'humanité de Jésus-Christ, il faut un contact. Il faut un contact un contact de l'âme avec cette humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Thomas l'explique bien dans une objection, il dit « Aucun agent corporel n'agit par efficience sans contact. » Il prend l'exemple de la guérison des lépreux. Notre Seigneur touche le lépreux et alors il est guéri. Et saint Thomas répond « Eh bien, cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ, la passion qui est la source du salut, bien qu'elle soit corporelle, elle a pourtant un effet spirituel, de par la divinité qui est unie à la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, et ainsi, par un contact spirituel, en sort une efficacité. » Comment se fait ce contact spirituel avec les mystères salvifiques de notre Seigneur ? Par la foi, dit-il, et par les sacrements. Voilà les deux canaux par lesquels les mystères de notre Seigneur transmettent la force, la puissance spirituelle qu'ils contiennent aujourd'hui encore. Comment se fait donc ce contact ? Par la foi et les sacrements, dans l'Ancien Testament, avant l'institution des sacrements, uniquement par la foi. Les sacrifices de l'Ancienne Alliance, ou les sacrements au sens large de l'Ancienne Alliance, qui étaient figuratifs, aidaient les Hébreux, puis les Juifs, à manifester, à exprimer leur foi dans le Sauveur à venir, dans le Messie à venir. Et c'est ainsi, par cette attente du Messie Sauveur, qu'ils entraient en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pour les contemporains de notre Seigneur, c'est beaucoup plus simple. Nous voyons dans l'Évangile les foules qui se jettent sur lui, littéralement, pour recevoir la vertu qui sort de lui et être guéris de leurs infirmités. Nous voyons les apôtres, comme le souligne saint Jean dans sa première lettre, l'entendre, le voir, le toucher. Nous voyons saint Jean reposer sur son cœur. Nous voyons sainte Marie-Madeleine oindre ses pieds, oindre sa tête, l'écouter. Et les contemporains, Jésus avait donc cette conscience très vive du contact nécessaire pour recevoir la vie de Jésus. Un peu comme on pourrait donner l'image du nourrisson qui a cette conscience extrêmement vive que sans le sein maternel, il va mourir et qui se jette dessus. Puis, pour les générations qui sont nues après le départ de notre Seigneur, le contact se réalise, comme disait saint Thomas, par les sacrements et par la foi, spécialement par les sacrements, qui eux opèrent d'une façon certaine, ex opere operato, dit la théologie, qui possèdent et qui contiennent une puissance particulière pour nous donner la vie divine, mais également par la foi. Et saint Thomas précise, pas n'importe quelle foi, mais la foi formée par la charité. La foi formée par la charité, dit-il, pour qu'ainsi la passion de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit appliquée non seulement quant à l'intelligence, la foi est une opération de l'intelligence, mais aussi quant à l'affection, quant au cœur, par la charité. Et c'est aussi, dit-il, que par ce moyen, les péchés sont remis par la vertu de la passion du Christ. Donc il ne s'agit pas de n'importe quelle foi, ce n'est pas n'importe quelle foi qui nous fait rentrer en contact avec les mystères, mais c'est la foi formée par la charité, c'est-à-dire la foi lorsque nous sommes en état de grâce. La foi, on pourrait dire, nous fait toucher l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. La charité nous fait saisir, nous emparer, nous unir à cette humanité de notre Seigneur. Quelle est maintenant l'économie du rosaire ? Eh bien, c'est tout simplement une synthèse vivante de tous les mystères du salut, tous les mystères avec leur grâce propre, cette grâce que nous demandons en méditant chacun des mystères, la purification de l'âme, l'esprit de sacrifice, l'esprit d'adoration, etc. Mais une synthèse qui nous permet d'entrer en contact vivant avec ces mystères, non pas seulement de temps en temps, comme quand nous recevons un sacrement. Le sacrement requiert un ministre, le plus souvent le prêtre. Ce n'est pas toujours facile, toujours possible, chaque jour, de recevoir les sacrements. Tandis qu'avec le rosaire, à tout instant, en tout lieu, tout le monde peut rentrer en contact avec chacun des mystères par cette foi formée, par cette foi gonflée de charité. Le rosaire rend donc les sacrements du salut accessibles à tous. par l'exercice des trois vertus théologales. Et si nous voulons préciser les différents modes d'action du rosaire dans nos âmes, nous pourrions en distinguer quatre. La première façon dont agit le rosaire, c'est d'une façon tout simplement naturelle. Le rosaire récité chaque jour, médité chaque jour, nous met dans un souvenir habituel, nous fait rentrer dans une familiarité avec les mystères de notre Seigneur, avec les modèles de Notre-Dame, de notre Seigneur, des apôtres, avec la beauté de ces personnages, de ces personnes, la beauté de ces gestes, de ces événements, et avec la bonté de Dieu. Et ce souvenir, cette familiarité, produit dans nos âmes une atmosphère, comme dit le Père Cormier, purifiante, embaumée, qui nous conduit vers le bien. C'est un effet tout simplement naturel lorsque nous considérons, lorsque nous désirons le beau, le vrai, le bon, nous sommes assimilés à ce que nous désirons. Le deuxième mode d'action qui est beaucoup plus important, c'est ce contact surnaturel par l'exercice des vertus théologales, de la foi, de l'espérance et de la charité. C'est ce dont j'ai parlé dans la première partie. Par ce contact, nous touchons et nous saisissons la sainte humanité vivifiante de notre Seigneur et nous recevons les grâces correspondantes à chacun des événements que nous saisissons. Le troisième mode, c'est l'intercession de la Sainte Vierge Marie. Intercession simultanée. Quand nous méditons, quand nous contemplons le rosaire, la Sainte Vierge le fait avec nous et elle prie pour nous, pour nous obtenir ces grâces que nous demandons, et elle répand en nous les grâces qu'elle a obtenues pour nous. Et puis enfin, le rosaire opère encore par un mode de mérite, parce que nous faisons cet effort de prendre du temps, de quitter nos activités purement naturelles, de consacrer ce temps à Dieu, de nous tourner vers lui, de le chercher, et ça nous obtient du mérite, et donc de recevoir aussi pour cela des grâces que nous recherchons. En nous rappelant que, comme disait Sœur Lucie, Dieu a donné une puissance particulière, une vertu particulière au rosaire pour notre temps. Il y a donc un mérite supplémentaire, sans doute, aujourd'hui, dans le rosaire, chaque fois que nous le prions, pour obtenir la grâce non seulement pour nous, mais pour l'Église et pour le monde. En résumé, le rosaire est une vie chrétienne en résumé. La religion en résumé. Eh bien, demandons à Notre-Dame, aujourd'hui, de prier toujours mieux notre rosaire. De le prier incessamment, soit d'une façon expresse, en nous mettant en prière, en le récitant en commun, soit le reste du temps, au milieu de nos activités, en égrenant les Ave Maria, tout en travaillant, en pensant à ces événements, à ces mystères, en arrière-plan, qu'ils soient toujours devant nos yeux, à le réciter avec un vrai esprit contemplatif, non pas d'une façon routinière, purement matérielle. Et puis, demandons à la Sainte Vierge, aujourd'hui, d'être missionnaire du rosaire. C'est l'arme voulue par Dieu, choisie par Dieu, pour notre temps, pour la conversion du monde, pour la conversion des chrétiens, dans ce temps de désorientation diabolique. C'est cette arme toujours disponible, à toute heure du jour, et pour tout le monde. Et puis demandons enfin de devenir, nous aussi, une prière, de devenir rosaire, de reproduire dans notre vie ces mystères de la vie de notre Seigneur, et c'est ce que notre sœur va de nouveau promettre par ce renouvellement de cette profession, de devenir elle aussi, après Saint-Dominique, un rosaire vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.